Extrait des romans Le Récital et Le Joueur de Triangle de Nicolas Gilbert, collage et adaptation en monologue par Daniel Shelton dans le cadre d'un projet avec l'Orchestre symphonique de Laval. Publié dans le numéro 2 de la revue Entre vous, lu par Béatrice Picard. J'étais une enfant la première fois où une musique m'a permis de me découvrir. C'était le soir où ma mère m'avait emmené voir la flûte enchantée de Mozart. J'avais passé les jours suivants à me promener dans la maison, déguisée en Papagena, l'amoureuse de l'oiseleur Papageno. Je m'étais confectionné un costume avec des retailles de tissu et une plume qui, par bonheur, traînait dans ma chambre. J'avais tenté par tous les moyens de convaincre ma gardienne de se déguiser en Papageno pour que nous puissions chanter en duo, mais elle n'avait rien voulu entendre. Je m'ennuyais un peu cet été-là. J'avais hâte au retour de mon amie, Justine. Elle voyageait en France avec ses parents. Chez elle, il y avait un salon en deux parties, ce qu'on appelle un salon double. La première moitié, où se trouvait une grande fenêtre donnant sur le devant de la maison, était meublée avec parcimonie et élégance. Chaque fois que j'y entrais, mon œil était attiré par les très jolis instruments à percussions exotiques accrochés au mur. Mon préféré était un minuscule xylophone africain dont j'aurais été assez curieuse d'entendre le timbre. Il y avait aussi un tambour militaire du 19e siècle et un vieux vibraphone qui avait l'air d'avoir été rafistolé. Justine disait que cette moitié de la grande pièce était l'espace de son père, un esthète. La décoration et l'ameublement de la seconde moitié du salon étaient vraiment aux antipodes de ce qu'on retrouvait dans la première. Tout y était lourd et sombre. Il y avait des dizaines de photographies, assez anciennes pour la plupart, et de nombreuses bibliothèques garnies en grande partie de vieux livres joliment reliés. La mère de Justine avait entassé là un héritage. La pièce la plus lumineuse de la maison, la cuisine, s'ouvrait sur une verrière transformée en une véritable jungle. Que des plantes, dont quelques-unes rares, très belles. De vieilles baguettes de tambour leur servaient de tuteurs, comme si un percussionniste s'était converti au jardinage d'intérieur. Et c'était un peu ça. Un escalier menait à une salle immense aux murs et au plafond recouvert de panneaux isolants. Il y avait des instruments rigoureusement partout. Gong, caisse claire, cymbales, xylophone, triangle, marimba. C'était le studio dont tout percussionniste rêvait. Le métier de percussionniste, ce n'est pas un métier facile. C'est un travail de haute précision qui sollicite autant le corps que l'esprit. À l'orchestre, la pression est très forte sur eux. Ils sont les musiciens qui ont le moins droit à l'erreur. Tout doit être parfait dans la section de percussion. Et pourtant, Dieu sait qu'ils se font souvent regarder de haut par ceux de leurs collègues qui ont l'honneur d'être assis plus près du chef. Mais quel que soit leur statut professionnel, tous les musiciens ne sont-ils pas d'abord des artistes? On dira que l'état d'artiste n'est pas une profession, que c'est une façon d'être, une vocation, un mode de vie. On dira encore qu'on ne choisit pas d'être artiste, ou encore que c'est l'art qui nous choisit, que l'art est plus fort que la vie. Je veux bien. On ne veut toujours que le meilleur pour soi-même, ça va de soi. Mais il semble qu'en tant qu'artiste, on ne choisit pas le meilleur. C'est lui qui nous choisit. C'est tout de même un peu triste. Pour échapper à mon statut d'artiste, je pourrais prendre un pseudonyme et faire quelque chose de différent. Ou peut-être, en fait, faire la même chose, mais en étant un peu quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui s'intéresse à la musique contemporaine. Quelqu'un qui veut penser la musique et qui peut parler la musique haut et fort. Car si le discours sur la musique s'affaiblit à moyenne échéance, la musique elle-même risque de pâlir. Son rapport au monde risque de devenir plus ténu. On doit faire un effort pour donner de plus grandes places à la musique dans tous les types de littérature, pas seulement dans les revues spécialisées et dans les programmes de concerts. Oui, c'est aussi mon devoir que de parler de la musique. Mais plus encore, je crois, de l'écouter. Le compositeur n'a aucun contrôle sur ce qui est entendu, car l'écoute agit comme un filtre. C'est dire que la musique n'existe qu'à travers l'écoute et, au-delà de l'écoute, dans l'interprétation qu'en fait l'auditeur. L'auditeur est un interprète. Moi et vous tous, nous sommes des interprètes de la musique. Nous interprétons ce que les musiciens nous transmettent de l'œuvre du compositeur. C'est seulement hier que j'ai pris pleinement conscience de mon rôle au quotidien, dans la musique et dans toutes les autres formes d'art. J'avais allumé la radio pour me changer les idées. Je me rappelle assez bien ce que j'ai entendu durant les quelques minutes où j'ai laissé le poste en marche. La personne interviewée, un pianiste, répondait à des questions du genre « Quand ?» Et pourquoi avez-vous choisi de vous consacrer à l'interprétation de la musique contemporaine? Composez-vous? D'où vient la relation particulière que vous entretenez avec l'œuvre pour piano de Pierre Boulez? Une des réponses m'a frappée. Sous toute réserve, je me permets de la reconstituer ici. Je ne compose pas à proprement parler. Cependant, le travail d'interprète est déjà en lui-même un travail de création, un travail de composition, somme toute. Si vous voulez, le compositeur et l'interprète font partie de la même chaîne de montage. Ils y exercent des fonctions différentes, mais étroitement liées. Le compositeur, positionné en amont, et l'interprète, en aval. Choisir son métier, c'est aussi choisir son mode de vie. Choisir son métier, c'est aussi choisir son mode de vie. En entendant cela, je me suis tout de suite demandé si j'avais choisi mon mode de vie. Pour ce qui était de mon métier, c'était clair. Mais un mode de vie? Oui, j'en avais un. Je vivais. C'est cette idée qu'on puisse un jour choisir son mode de vie comme on choisit la couleur de ses chaussettes qui m'avait frappée. Et sans aucun doute, c'était un choix réversible. Aussi réversible que le choix de la couleur du fauteuil avec lequel j'entretiens une relation particulière, assez semblable, je crois, à celle du pianiste avec l'œuvre de Boulez. Chez moi, j'aime m'installer confortablement dans mon fauteuil de cuir vert foncé, dans ce fauteuil associé à la détente, à l'évasion et à l'oubli. La couleur du dit fauteuil est liée à son effet bienfaisant sur mes nerfs, le vert, étrangement m'ayant toujours calmé. Ce n'est cependant pas pour cette raison que j'ai choisi de me procurer un fauteuil vert. Mais bien pour m'assurer de sa bonne cohabitation avec la reproduction de Pollock qui orne le mur auquel il fait face. Cette cohabitation est parfaitement harmonieuse. Non que le vert soit véritablement prédominant dans le tableau, au contraire. Mais je ne peux m'empêcher de croire que ces quatre jets de vert foncé, il n'y en a que quatre, sont porteurs d'un message, sont d'une façon ou d'une autre codé à ma seule intention. J'ai une relation assez singulière avec ce tableau en général et avec ces jets verts en particulier. Et je me plais à faire du fauteuil l'écho et l'amplification de cette relation. Parfois, j'ai même l'impression d'être carrément assise à l'intérieur du tableau, comme, j'imagine, le compositeur est assis à l'intérieur de sa musique. Mais le compositeur, à propos de quoi fait-il de la musique ? À propos de l'auditeur, sans doute. Aussi à propos de lui, jusqu'à un certain point. Sa matière première n'est pas le son, mais bien l'écoute, aussi paradoxale que cela puisse être. Cette préoccupation pour l'écoute est certainement largement répandue. Parler de l'écoute, jouer avec elle, c'est tenter de provoquer chez l'auditeur différents types d'écoute qui interagissent, se confrontent, s'entrechoquent. Pour obtenir une large palette de modes d'écoute, il faut utiliser une large palette stylistique, ne pas avoir peur des extrêmes à tous les niveaux. Par ce genre d'attitude compositionnelle, on prend possession de l'auditeur, on le guide et on lui permet de se découvrir. Je vais maintenant me retirer en coulisses et écouter le concerto pour marimba et vibraphone de Nicolas Gilbert, interprété par la percussionniste Anne-Julie Caron. Une production de Vues et Voix en collaboration avec la Société de développement des périodiques culturels québécois. Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada et à l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. Thank you.